En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
État de l'atmosphère. Surchauffé.
Si ça continue, on n'aura pas de neige pour les vacances de fin d'année.
Les sols s'effondrent, les glaciers fondent, même les rochers tombent.
Et au mois d'août, on suit à grosses gouttes, même à Knokke-le-Zoot.
Le changement climatique que nous expérimentons est provoqué par les activités humaines. C'est un fait établi sans équivoque. Les gaz à effet de serre et notamment le dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère réchauffent notre planète, ce qui entraîne en cascade des dérèglements de l'environnement. Les sciences climatiques et les modèles numériques ont permis de comprendre ce phénomène, de l'attester, de prédire son évolution et d'attribuer à l'humain la responsabilité de ce changement climatique. Mais bien avant la révolution industrielle, l'humain avait déjà la main sur le climat. En rasant massivement les forêts, il mesurait les effets de ses activités sur l'environnement et notamment le cycle de l'eau. Comment la pensée climatique a-t-elle évolué au fil des siècles? Comment sont nées les sciences climatiques et les modèles? Comment le changement climatique a-t-il changé le monde? Et pour explorer cette histoire brûlante, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Guillemot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS en études des sciences et des technologies au centre Alexandre Coiré. Également à nos côtés, Amaena Guéniou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalienne agrégée et docteur en philosophie, autrice de Terre brisée pour une philosophie de l'environnement parue aux éditions Double Ponctuation. Et pour compléter ce plateau en studio, Fabien Loucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS, auteur, co-auteur des Révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle, aux éditions du Seuil. Je l'ai dit, le changement climatique d'origine anthropique, dans le sens de la modification du climat de la main de l'humain, est plus ancien que la période industrielle. La prise de conscience d'une influence des activités humaines sur l'environnement date d'avant la production massive de CO2. Fabien Loucher, vous faites remonter cette pensée du changement climatique à l'exploration et la conquête des Amériques. Comment s'est déroulée cette première prise de conscience?
Alors oui, effectivement, avec mon co-auteur Jean-Baptiste Fressoz, on a mené cette enquête qui consistait à chercher finalement dans le passé des traces d'une conscience en fait de l'agir climatique humain. Et à notre grande surprise, on est remonté finalement jusque à la fin du 15e siècle. La première trace qu'on a trouvée de cette conscience, de cette inquiétude et parfois des espoirs qu'on pouvait placer dans le changement climatique, donc on les a trouvés sous la plume du fils de Christophe Colomb, qui raconte que son père, lors de son second voyage au large de la Jamaïque, contemplant des orages tropicaux sur la Jamaïque, aurait dit que si on désempêtrait, c'est la meilleure traduction de son espagnol, désempêtrait cette île de ses forêts, les orages, les pluies régresseraient et qu'on en améliorerait le climat. Et donc là, c'est une figure qu'on a tracée pendant toute l'époque moderne, la figure de l'amélioration climatique qui est liée à cette époque-là, à l'agir sur les arbres. L'idée, en gros, c'est que si on coupe les arbres, on va changer le climat et on va améliorer le climat.
Et il y a une idée aussi colonialiste qu'on retrouve souvent. Il y a peut-être une idée selon laquelle le climat qu'ils découvrent n'est pas le bon parce qu'il est différent en fait de ceux des colons au départ.
Alors, pour comprendre ça, il faut remonter finalement à l'histoire de l'exploration et de la conquête de l'Amérique. Lorsque les explorateurs, les navigateurs, les scientifiques, qu'on appelait à l'époque philosophes naturels, partent en Amérique au 15e, au 16e, au 17e siècle, ils ont en tête la cosmographie des Grecs. Et la cosmographie des Grecs, pour résumer, nous dit que sous les mêmes climats, c'est-à-dire sous les mêmes latitudes pour les Grecs, puisque le terme à l'origine du climat désigne la latitude, des bandes de latitude, et bien sous les mêmes climats, sous les mêmes latitudes, même température, même saison, même pluie, même orage. Or, dans les années 1540, Jacques Cartier manque de mourir lorsqu'il hiverne en Nouvelle-France, au Canada. Pourtant, le Canada, Québec, est plus ou moins sous la latitude de La Rochelle. Mais les hivers de Québec ne sont pas les hivers de La Rochelle. Et ça, c'est un hiatus qui est une espèce de caillou dans la chaussure de la philosophie naturelle. Et pour expliquer ça, il va falloir expliquer finalement pourquoi l'Europe et l'Amérique du Nord n'ont pas le même climat physique. L'explication, c'est de dire qu'en Europe, on a civilisé le climat par le défrichement.
Et donc on comprend que les colons découvrent un climat différent et qu'ils peuvent justement agir notamment sur la question des forêts. On reviendra sur ce point des forêts. Et avant la colonisation des Amériques et la découverte d'un autre climat, Amaena Guenyo, comment les philosophes réfléchissent à l'environnement? Est-ce qu'il y a un lien fort déjà entre l'humain et son milieu?
Je pense que c'est intéressant la perspective philosophique parce qu'elle nous montre que, en fait, dès la naissance de la philosophie, il y avait une vraie interrogation sur le rapport des êtres humains à la nature et ces rapports pouvant être bénéfiques ou en supposément bénéfiques ou au contraire destructeurs. Et notamment, on trouve chez les présocratiques une vraie réflexion sur la manière dont les êtres humains peuvent interagir avec les différents éléments du cosmos, alors qu'ils sont au nombre de quatre. Donc, c'est l'eau, le feu, la terre et l'air. Ça peut sembler saugrenu, mais quand on comprend que le feu est, pour Héraclite, par exemple, un principe de vie, on comprend qu'on a en fait les quatre dimensions, quatre sphères qui composent notre monde. La biosphère, ça correspond à la vie. La lithosphère, ça correspond au sol et aux ressources du sous-sol. L'atmosphère, qui correspond à l'air et donc à la question du changement climatique. Et l'hydrosphère, qui correspond à la question de l'eau et donc du dérèglement du cycle de l'eau. Et donc, chez les présocratiques, on trouve l'idée que l'être humain doit réfléchir à la manière dont il peut contribuer à articuler harmonieusement ces différents éléments. Et donc, c'est d'une actualité brûlante.
Et est-ce qu'il y a déjà à ce moment-là, on parle toujours avant 15e siècle, avant 17e siècle, est-ce qu'il y a une question de l'exploitation et de la surexploitation de la nature? Est-ce qu'il y a déjà une notion de modification de la nature qui anime la philosophie?
Oui, complètement. Alors là, j'ai plutôt en tête les textes stoïciens où on a une insistance importante sur le fait que si on cède à un désir illimité, à une forme d'hubris, de démesure, on risque complètement de détruire la cité, donc les interactions entre les êtres humains, mais aussi la manière dont la cité s'intègre dans la nature plus largement. Et qu'au contraire, si on subordonne les activités à une raison, au logos, et donc à la capacité à réfléchir à des fins de ce qu'on produit et de ce qu'on fait, alors il est possible de justement mieux lier non seulement les activités humaines entre elles, mais les activités avec le reste du cosmos.
Et le terme climat, Fabien Locher, est pas du tout ou peu utilisé, j'imagine. Comment est-ce qu'on décrit ces phénomènes climatiques? Est-ce qu'on décrit seulement ce qu'on voit? Est-ce quelque chose qui regroupe un terme ou des éléments qui regroupent ce phénomène de climat?
Alors effectivement, le terme de climat, il est très complexe, historiquement, il est polysémique. D'abord, je l'ai dit, il vient d'un mot grec qui signifie l'inclinaison. Et ça désigne finalement les bandes de terre que dessinent à la surface du globe deux lignes de latitude données. Donc imaginons la latitude, par exemple, de Bordeaux, on trace une ligne qui fait le tour du globe, et entre les deux, il y a ce que les Grecs appellent les climats. Ça, c'est la première définition, elle est, disons, géodésique ou cosmographique. Ce qu'il y a, c'est qu'assez rapidement, le terme de climat va aussi désigner une région. Donc on parlera du climat de Paris pour désigner simplement la région parisienne, par exemple. Et ça, c'est dès l'époque moderne, dès le XVIIe siècle. Donc déjà, dans les textes, on s'en sort assez mal entre ces différentes définitions. En fait, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'apparaît vraiment le sens de climat, au sens de l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. On parle même déjà au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, de climat physique, pour l'opposer au climat astronomique, justement. Pour les historiens, c'est un piège, en fait. Le nominalisme, c'est le fait d'aller chercher le terme climat. C'est une mauvaise idée, en fait. Les discours sur ce qu'on appelle aujourd'hui le climat se tenaient, en fait, en utilisant les mots de saison, beaucoup. Est-ce que les saisons sont améliorées? Est-ce qu'elles sont désastreuses? Est-ce qu'elles sont favorables? Est-ce qu'elles sont pourries? Est-ce qu'elles sont... etc.
Liées aux récoltes.
Et c'est lié, évidemment, au fait qu'on est dans des sociétés essentiellement agraires, où, évidemment, on est à la limite de la subsistance assez souvent, et où la question des récoltes est fondamentale. Et j'ajouterai aussi la question du transport, parce qu'on n'a pas assez en tête le fait que, pour transporter des charges pondéreuses, des charges très lourdes, avant le chemin de fer, on utilisait énormément les fleuves. Et les fleuves, ils sont très très soumis aux saisons, puisqu'il y a à la fois inondation ou alors possible, ou alors le fait que s'il fait trop froid, on a des fleuves gelés. Donc il y a vraiment cette dimension aussi liée au transport qui est très très importante et qu'on n'a pas forcément en tête, moins que l'agriculture qui est assez évidente.
Et si on reste dans ces 15e, 16e, 17e siècle, quelle est l'influence de la religion un petit peu sur cette pensée climatique? De quel œil voit-elle les possibles changements de l'environnement qu'on observe, Fabien Locher?
Alors, la religion, elle intervient essentiellement via les positionnements dans le champ des sciences naturelles. Notamment via l'influence d'un personnage très intéressant qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre, que vous connaissez peut-être comme un auteur romantique, il a écrit Paul et Virginie, mais c'était aussi un ingénieur des ponts et chaussées qui avait travaillé dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'île Maurice. Et c'est important parce qu'on sait que c'est à l'île Maurice qu'ont été lancées les premières alertes s'agissant d'une dégradation des climats, non plus d'une amélioration. Et puis par ailleurs, Bernard de Saint-Pierre, c'était un naturaliste qui pensait que, en gros, Dieu avait créé le monde sous une forme parfaite et interdépendante, et il décrivait le monde comme une espèce, on dirait aujourd'hui, d'écosystème où tout se répond et où tout est parfait. Et l'homme, finalement, est celui, et l'agent qui vient dégrader cette perfection. Et Bernard de Saint-Pierre a joué un rôle très important à la fin du XVIIIe siècle pour mettre en avant le risque possible d'une dégradation climatique en Europe sous l'effet de la déforestation. Et donc, lui, il était soutenu, ardemment soutenu par tous les milieux catholiques qui voyaient en Bernard de Saint-Pierre l'antidote à un autre naturaliste, matérialiste, le comte de Buffon, qui était le grand naturaliste de la fin du XVIIIe.
Et la forêt aussi a une place de choix, on l'a dit, parce qu'elle est source d'énergie et de matériaux. Et sa gestion va être particulièrement critiquée en France pendant la Révolution. Ça aussi, c'est un temps politique fort de la pensée du changement climatique que cette période post-révolutionnaire, Fabien Locher.
Oui, effectivement. Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant à découvrir. Mais dans les premières assemblées nationales, en fait, les premières séances, dans les années 1790, par exemple, on a, dans les procès-verbaux, de nombreuses références au changement climatique. Parce que les révolutionnaires accusent la monarchie, l'ancien régime, d'avoir dégradé les forêts et donc dégradé le climat de la France. Et ça, c'est lié aussi au fait que dans les années 1780, et ça c'est assez connu, on a une série de saisons agricoles catastrophiques, dans lesquelles certains ont voulu voir les origines de la Révolution française. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais évidemment, ça a quand même créé un contexte. Et effectivement, donc, la monarchie est accusée d'avoir dégradé les forêts, donc mal géré la nature, et donc dégradé le climat de la France. Pourquoi ? Parce que la monarchie, disent les révolutionnaires, eh bien, aimait trop le luxe, aimait trop la guerre, donnait les charges aussi d'agents des eaux et forêts à des courtisans, ou alors en échange d'argent. Et donc, ils ne mettaient pas des gens compétents à la tête des eaux et forêts qui devaient gérer le patrimoine forestier de la France.
Dernière question, avant d'entamer justement ce passage à la révolution industrielle, l'Europe a aussi connu un refroidissement particulier qui porte le nom de petit âge glaciaire, entre 1300 et 1860, avec une baisse générale des températures. Est-ce que cet événement est souvent évoqué, en fait ? Est-ce que vous avez trouvé des traces de cet événement ? Et est-ce qu'on attribue une raison particulière à ce refroidissement, Fabien Locher ?
Alors, le petit âge glaciaire, effectivement, c'est un phénomène qui a été notamment mis en avant par un grand historien, Emmanuel Leroy Ladurie, grand historien ruraliste, qui a écrit en 1967 une histoire du climat assez influente. Alors, nous, ce qu'on a vu dans les sources, c'est que finalement, les sociétés, ça c'est pas très très étonnant, sont surtout sensibles aux extrêmes, aux années extrêmes, aux événements comme des grandes grêles, et assez peu finalement à des évolutions tendancielles des températures, comme le petit âge glaciaire qui passe relativement inaperçu parce qu'elles sont extrêmement graduelles et qu'en plus elles sont masquées par les fluctuations naturelles des saisons. Et donc effectivement, les gens qui font de la climatologie historique arrivent à documenter des grandes tendances comme le petit âge glaciaire, mais quand on regarde la vie des sociétés, ça passe relativement inaperçu, même si on trouve, malgré tout, dans les années 1860, des auteurs qui se rendent bien compte qu'il y a une sorte de radoucissement, en quelque sorte. Notamment, ça se voit sur des phénomènes sentinelles comme les glaciers, qui sont les premiers, mais c'est le cas aujourd'hui aussi, malheureusement, avec le changement climatique anthropique causé par le CO2, qui sont les premiers à exhiber finalement les effets des évolutions des températures. Mais j'allais dire, non, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est finalement les phénomènes climatiques extrêmes qui ont des effets politiques.
Économiques.
Économiques et donc aussi politiques, et qui ont aussi, ça c'est aussi intéressant, et c'est un aspect important, qui ont un écho médiatique. La sphère médiatique, en gros, elle naît à la fin du XVIIIe siècle avec les premiers journaux quotidiens. Et dans la sphère médiatique, les événements météorologiques, les saisons, occupent une place tout à fait particulière, d'ailleurs parfois critiquée par les philosophes qui expliquent que c'est... On a trouvé un auteur qui explique qui critiquait la verve écrivassière des journalistes s'agissant des saisons. Voilà. Donc ça peut être critiqué, mais ça joue un rôle aussi important en termes de caisse de résonance des évolutions météorologiques.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
La révolution industrielle est née d'une transformation technologique, d'une transformation d'un essor scientifique, d'une position philosophique fondamentale qu'a exprimée admirablement Descartes, posant l'homme sujet du monde par rapport à un univers d'objets à manipuler, et cette idée a été reprise par tout le cours technologiste bourgeois, je dis marxiste non marxien, car dans Marx il y avait le sens de prolongement, mais dans tout ce prolongement occidental, l'homme est le conquistador qui est devenu le Gengis Khan de la banlieue solaire. La science, à partir du moment où il est devenu l'instrument extraordinaire de la connaissance objective, a perdu tout contact, toute racine avec le problème de la finalité et est devenu instrumental. Ce sont de tels problèmes de fond que nous sommes obligés de nous poser aujourd'hui. Et je crois que pour bien les comprendre, il ne faut ni hypostasier, isoler le problème écologique, ni aussitôt le réduire.
Edgar Morin, dans Les Chemins de la Science, une archive de l'INA de 1973, on entend l'homme sujet du monde entouré d'un nombre d'objets à manipuler, l'homme le conquistador, Amaena Gagnon. Une réaction peut-être à cette archive, c'est une période un peu charnière où l'emprise de l'humain sur la nature se transforme et s'accentue particulièrement.
Oui, je voudrais juste rebondir sur le propos. Allez-y. Parce que ça pose aussi des questions d'articulation entre les questions sociales. Enfin, Edgar Morin parle de cette question d'hypostasier la question écologique. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on pose, en effet, avant la Révolution française, la question de la gestion des forêts, on trouve une articulation entre l'exploitation des êtres humains et l'exploitation de la nature et des forêts. Et c'est le cas notamment chez Rousseau dans le second discours, où il insiste vraiment sur le fait que le fait de transformer les riantes campagnes et les riantes forêts en cultures qui vont être exploitées et surexploitées est le début à la fois de l'exploitation des êtres humains, puisque on va exproprier, enfin, début d'une accélération de l'exploitation de l'être humain, parce qu'on va exproprier une grande partie des personnes de leur culture, et donc elles vont, en tant que surnuméraires, vendre leur force de travail aux propriétaires. Et c'est le début de l'exploitation complète de l'environnement, et Rousseau assiste avec effroi à la transformation complète de tout un écosystème d'une nature qui est liée aussi à des souvenirs d'enfance.
Et il cite aussi le climat, les saisons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, oui, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur notre âme. Donc il y a vraiment cette, oui, notion centrale des climats puis saisons, déjà en premier lieu.
Oui, exactement. Et le fait que, c'est ce que je voulais souligner tout à l'heure, quand on agit sur un point, donc par exemple sur la forêt, on va modifier l'ensemble des paramètres de l'existence et l'ensemble des paramètres de l'activité humaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il est sensible justement à cette question de l'évolution tendancielle aussi en deçà des crises et des épisodes dramatiques, et ça renvoie comme ça en avant-première à une forme d'angoisse aussi dans le rapport au monde, puisque on présuppose en amont une sorte de continuité de la terre en fait qui nous accueille, et on pense que voilà, le sol qu'on va cultiver est semblable au sol qu'ont cultivé nos ancêtres, et donc on a des règles,
ouais,
voilà, on a des règles qu'on peut appliquer telles quelles, et donc là il y a déjà une forme d'inquiétude sur le fait que justement cette tradition sur laquelle on pouvait s'appuyer est en train de se déliter. Et c'est toute une question, c'est-à-dire que quand on a affaire à un changement qui est inédit, et encore plus aujourd'hui où c'est un changement global et irréversible qui n'a pas de commune mesure avec les modifications locales, eh bien comment est-ce qu'on fait pour agir, et comment, quelle est la place des règles et des textes philosophiques notamment dans ce contexte complètement nouveau.
Fabien Locher, quels sont les grands changements qui s'opèrent à cette période de révolution industrielle dans la société et dans la pensée climatique ?
Alors avec la révolution industrielle, effectivement, on a une civilisation des machines qui naît. Et parmi ces machines, on a notamment le chemin de fer qui va rebattre les cartes à la fois du point de vue du transport des personnes, mais surtout aussi du point de vue agricole. Parce que désormais, on va avoir une dépendance, une vulnérabilité amoindrie finalement aux variations climatiques. Auparavant, si on avait une catastrophe climatique ou une saison désastreuse en Bretagne, on pouvait avoir des disettes, on pouvait avoir des émeutes sur les marchés, on pouvait avoir des mouvements de révolte rurale. Après l'arrivée du chemin de fer, on pourra importer très facilement en fait des céréales, soit de l'argent, région parisienne, soit d'Odessa, par des bateaux à vapeur et du chemin de fer, soit des États-Unis. Et donc la globalisation, pour un temps, va créer une sorte de découplage entre les systèmes agricoles et le climat. Et c'est ce que d'ailleurs les historiens économistes appellent, disons, le nouvel ordre agricole ou la nouvelle révolution agricole qui est liée en fait à la révolution industrielle. Ça va avoir un effet, c'est un effet paradoxal. C'est-à-dire, c'est au moment où les technologies qui créent du CO2 émergent et deviennent importantes, qu'on va mettre finalement le climat de côté, qu'on va moins craindre le climat et ses variations. Donc il y a un effet assez sinistre, il y a quelque chose de contre-intuitif et de sinistre, c'est-à-dire que sont produits à la fois les moyens du changement climatique anthropique et les moyens de l'inconscience vis-à-vis de ce changement.
Et est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent justement au moment de ces pollutions ? On connaît par exemple le fameux fog londonien de Dickens à ce moment-là. Les impressionnistes prennent aussi le brouillard des villes. Est-ce qu'il y a des voix, des personnes qui commencent à parler des pollutions et c'est possible sans forcément aller à l'impact de l'environnement, mais de cette pollution?
Alors pour la question de la pollution industrielle, c'est même beaucoup plus ancien parce que des historiens ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Et en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, à Paris, à Rouen, à Marseille, il y a un très grand nombre de procès intentés par des riverains contre des usines de produits chimiques. Il faut voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, dans Paris, il y a des fabriques de soude, hein, donc, d'où s'échappent des nuages littéralement d'acide et donc des pollutions énormes, gigantesques, hein, qui passent pas du tout inaperçues et qui sont contestées par les riverains. On a même retrouvé dans la région cette fois-ci de Marseille, où il y a de grandes fabriques de soude, vu qu'on y fait du savon, des attaques, des propriétaires qui attaquent des firmes, des usines, parce que ces usines dégradent le paysage, la vue qu'on a depuis les mâts aristocratiques. Donc c'est déjà, on essaie de quantifier déjà la valeur esthétique de la nature dans ces procès. Donc ça, c'est une histoire très très longue, mais qui est un peu parallèle, j'allais dire, à l'histoire de la question du changement climatique. Effectivement, ça ne fait que s'accentuer avec, à la fin du XIXe siècle, lorsque se multiplient les dispositifs de la révolution industrielle. Mais j'allais dire, ça, c'est une histoire encore plus longue et qui a des liens, disons, avec la question du changement climatique, mais qui n'a pas forcément des liens directs. On retrouvera d'ailleurs cette question-là dans les années 1970, cette fois-ci, lorsqu'on se posera la question de savoir si les avions de ligne changent le climat.
Et tout juste avant de faire les premières découvertes scientifiques sur le fonctionnement du climat, de l'effet de serre et de la réalité d'un changement climatique provoqué par les activités humaines, le gouvernement français se saisit de cette question pour tenter de comprendre si l'humain est responsable des transformations qui s'opèrent. Nous sommes le 25 avril 1821. Voici la circulaire numéro 18 du ministre de l'Intérieur, Joseph-Jérôme Siméon. Une lecture de Sophie-Catherine Galli.
Paris, le 25 avril 1821. Messieurs, depuis quelques années, nous sommes témoins de refroidissements sensibles dans l'atmosphère, de variations subites dans les saisons et d'ouragans ou d'inondations extraordinaires auxquelles la France semble devenir de plus en plus sujette. On l'attribue en partie au déboisement des montagnes, au défrichement des forêts, au défaut d'abris qu'éprouvent nos campagnes et à l'absence des obstacles naturels qui s'opposaient jadis au vent et aux nuages du nord et de l'ouest. Les mêmes causes produiraient les mêmes effets dans toute l'Europe, et ces phénomènes seraient dignes de fixer partout l'attention. Ces maux ne seraient pas sans remède, et il serait important que, particulièrement en France, on prît des mesures pour écarter les inconvénients, les malheurs dont le principe aurait été reconnu. Dans l'état actuel des observations, il est peut-être difficile d'asseoir un jugement. Et c'est pour fixer mon opinion, pour voir ensuite quelles dispositions ordonner, que je viens vous demander des notes sur les divers points qui suivent. 1. Quelles forêts existaient dans votre département il y a 30 ans? Dans quelle zone et à quelle élévation étaient-elles placées? Quelles étaient leurs étendues et l'espèce d'arbres dont elles étaient formées? 2. Quels étaient les propriétaires? 3. Quelles sont celles qui existent encore et celles qui ont été abattues? 4. Quelle influence a-t-on remarqué que la différence exerça sur le système météorologique du département? Les rivières ont-elles eu des eaux plus ou moins abondantes? Les inondations, les pluies ont-elles été plus ou moins fréquentes? Y a-t-il eu plus souvent de la neige ou de la grêle? Et dans les pays de montagne, s'est-on aperçu que les glaces descendissent à plus basse région, repoussant et refoulant la végétation vers les plaines et les vallées? 5. Les vents ont-ils été plus violents, plus malfaisants, plus variables, et a-t-on remarqué que ceux du sud ou du nord exerçassent tout à coup, et par de soudains changements, de plus grands ravages que dans le siècle dernier, et lorsque la France enfin était mieux boisée? À ces questions, j'en pourrais ajouter d'autres, mais vous verrez vous-même, et sans avoir besoin de plus d'indications, à développer toutes les idées de cet ordre dont vous croiriez utile de me faire part. Je réunirai tous les documents que j'aurai reçus, je les communiquerai à l'Académie des sciences, et mon avis se formera sur ce que vous et elle auront d'abord émis en les motivant. On a beaucoup fait, et avec raison, pour l'encouragement des prairies artificielles. Mais les forêts n'ont pas moins d'importance, et quand les recherches auxquelles je vous prie de vous livrer n'auraient pas de résultat que celui d'arrêter vos regards sur ce genre de cultures et de richesses, ma lettre aurait rempli en partie son objet. Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération distinguée, le ministre secrétaire d'État de l'Intérieur, Siméon.
Fabien Lochez, c'est donc une enquête qui est réalisée auprès des préfets, si je ne me trompe pas, afin de vérifier donc s'il y a une relation de causalité entre déboisement et changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose d'assez inédit?
Alors en fait, c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur la Révolution. Ça, c'est la réponse des monarchistes révolutionnaires. Là, on est en 1821, donc je le rappelle, c'est une période historique tout à fait particulière qu'on appelle la Restauration, 1815-1830. Donc la monarchie est restaurée en France par, d'ailleurs, à la suite de la chute de Napoléon. Ce qui se passe, c'est que en 1815, bien loin de Paris et de la monarchie française, à Java, un volcan a explosé, le Tamboura. Il a transformé le système atmosphérique planétaire pendant plus d'une année. Il a créé partout des irrégularités, disons, climatiques, des crises agricoles aux États-Unis, mais aussi en Chine, en Europe. Et ça a été d'ailleurs assez très intéressant pour les historiens, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait une histoire globale de cette crise climatique et agricole. Et en France, ça s'est manifesté par des saisons catastrophiques en 1815, 16, 17. Et par ailleurs, en 1819, 1820, pas de chance, c'est un hiver terrible, le plus froid du 19e siècle, et ça, c'est pas lié au Tamboura, c'est juste la variabilité des saisons. Bref, on est en 1821, on sort d'une phase climatique très très intense, et l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de dire, le gouvernement doit faire quelque chose. Il n'est pas facile de réagir à des variations des saisons. Il a déjà envoyé la troupe, ce gouvernement, en 1816, à Château-Thierry, lorsqu'il y a eu des émeutes sur des marchés au blé. À la suite de ça, donc, mais il ne peut pas réagir que par la force. Il réagit aussi en essayant de créer de la conviction. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire avec cette enquête? Il essaie d'abord de dire, je fais quelque chose. J'enquête sur le changement climatique dont on parle à ce moment dans les journaux.
Il y a une action.
Il y a eu une action. Et en même temps, il faut revenir à la lecture et revenir au questionnaire. Depuis 30 ans, quels sont les changements finalement en substance climatique depuis 30 ans? 1821 moins 30, en gros 1789.
Donc, pas avant, pas après.
Ce que dit l'enquête, c'est les révolutionnaires qui ont détruit les forêts. C'est pas la monarchie, c'est bien les révolutionnaires, suggère l'enquête. Et donc c'est une façon de renvoyer l'accusation, de dire non, ce sont les révolutionnaires. Et d'ailleurs, au même moment dans les assemblées, il y a deux choses intéressantes. Il y a une grande figure monarchiste qui prend la parole à la Chambre des Pairs pour dire si on continue comme ça, malgré tout, on va transformer la France en un désert. Et ça, c'est Chateaubriand. Grande figure du parti ultra-monarchiste. Et par ailleurs, on a aussi des gens qui disent que malgré tout, les révolutionnaires ont accompli leur sombre dessein. Il y a une image très belle qui est donnée par un député en disant « Les révolutionnaires sont rentrés dans les forêts royales avec à la main la torche de la raison ». Donc les lumières pour eux, pour ces monarchistes, ce ne sont pas ce qui éclaire le monde, mais c'est ce qui détruit les forêts et le climat de la France.
Comment les sciences climatiques sont-elles nées? Comment a-t-on découvert l'effet de serre et le réchauffement brutal de notre atmosphère? C'est la suite de notre programme, juste après une courte pause musicale. On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. Elle cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton. Et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les
rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques.
Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques.
Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert.
Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 green washing. On veut du green, 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 green washing.
On veut pouvoir dire pardon. Soulager son esprit.
On veut du green, 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 green washing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des baleines et des thons.
On veut du green, 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 green washing.
C'est vous les as.
On veut du green, 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 green washing.
Greenwashing de Trio sur France Culture. Nous consacrons cette émission à la découverte du changement climatique et comment il a changé de monde. En compagnie d'Hélène Guillemot, chercheuse au CNRS en études des sciences et techniques au centre Alexandre Coiré, Amaena Guéniou, normalienne agrégée et docteur en philosophie, autrice de Terre brisée pour une philosophie de l'environnement, parue aux éditions Double Ponctuation, et Fabien Locher, historien chargé de recherche au CNRS, co-auteur des Révoltes du Ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle, aux éditions du Seuil. Après les premiers temps politiques propices à l'émergence d'une pensée du climat et le début de la révolution. Et le début de la révolution industrielle, nous entrons dans l'évolution des savoirs et des sciences climatiques. Hélène Guillemot, est-ce que vous pouvez commencer à nous expliquer, à nous parler de comment naissent les sciences climatiques? Est-ce qu'on peut dater ce début de la climatologie avec des outils, des instruments, des expériences ou même une idée en fait du climat et de ses variations?
Alors, c'est deux choses un petit peu différentes. Les sciences climatiques telles qu'on les conçoit aujourd'hui, elles ont été totalement révolutionnées par l'apparition de l'ordinateur et par les modèles de climat. Mais bien entendu, il y avait des savoirs, des connaissances, des pratiques autour de la météorologie auparavant, qui ont d'ailleurs été très utiles pour l'élaboration des modèles. Des historiens ont distingué en gros trois branches qui sont d'une part ce qu'on appelle la météorologie dynamique, qui est une connaissance assez théorique du climat à partir des lois de la physique. D'autre part, une branche très différente qui est plus climatologique et qui recense les observations du temps qu'il fait dans les différentes parties du globe. Et puis, et c'est apparu dès le 19e siècle, une forme de prévision du temps qu'il va faire à partir d'observations et à partir du milieu du 19e siècle, de transmission de ces observations grâce au télégraphe entre différentes stations en Europe. Mais la question du changement climatique, alors cette fois-ci contemporain, c'est-à-dire dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, n'est apparu qu'au XXe siècle, mais peut-être avant de parler de ce changement climatique d'origine humaine dû à l'effet de serre, il faut peut-être parler de la découverte de l'effet de serre. Donc, alors l'effet de serre a été mis en évidence en gros au XIXe siècle, et les grands noms, ce sont Joseph Fourier, qui est un physicien français, père de la théorie de la chaleur, et qui a mis en évidence le fait que l'atmosphère retenait le rayonnement réémis par la Terre.
On va écouter une courte archive de Gaston Bachelard dans les sciences sous le Premier Empire, diffusée en 1949, une archive de l'INA, qui parle justement de Jean-Baptiste Joseph Fourier.
Sous l'Empire parurent les mémoires les plus importants du mathématicien Joseph Fourier. Fourier établit la théorie mathématique de la propagation de la chaleur dans les solides. Ce n'est pas là un simple travail de mise en équation de phénomènes particuliers. En réalité, les mémoires de Joseph Fourier fondent une science nouvelle. la physique mathématique. C'est en 1812 que parut l'étonnant mémoire de Fourier sur les séries trigonométriques. Ces séries trigonométriques sont nées d'observations sur la propagation de la chaleur. Les extensions du théorème de Fourier sont actuellement considérables.
Donc Jean-Baptiste Joseph Fourier, mathématicien et physicien. Hélène Guillemot, vous commenciez à nous parler justement de cet effet de serre. Je vous laisse continuer sur justement les travaux de ce mathématicien et physicien.
Eh bien, Joseph Fourier a mis en évidence le fait que grâce à l'atmosphère, la Terre restait habitable et restait à un niveau de température agréable, parce que l'atmosphère s'interpose en fait entre la Terre et l'espace et empêche le rayonnement issu de la Terre, que Fourier appelait la chaleur obscure, de s'échapper, alors que l'atmosphère, en revanche, permet au rayonnement solaire d'entrer. Donc l'atmosphère est transparente pour le rayonnement solaire, mais bloque le rayonnement issu de la Terre. C'est donc ça la grande découverte de Fourier. Alors ensuite, quelques décennies plus tard, John Tyndall va identifier quel gaz au sein de l'atmosphère sont responsables de ce blocage, en quelque sorte. Il s'aperçoit que ce n'est pas l'hydrogène, pas l'oxygène, mais en revanche, il identifie deux gaz en laboratoire, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, et la vapeur d'eau. Alors, il s'aperçoit aussi que le dioxyde de carbone, en fait, est présent dans l'atmosphère en toute petite quantité. À l'époque, sa concentration était de l'ordre de 3 dix millièmes, et néanmoins, eh bien, cette très faible quantité de CO2 suffit pour réchauffer la Terre, parce que sans ce CO2, donc naturel, hein, à cette époque, eh bien, l'atmosphère terrestre aurait une température de moins 18 degrés, alors que grâce à cette faible quantité de CO2, eh bien, la température moyenne de la Terre atteint 15 degrés à cette époque, ce qui permet à la vie de prospérer.
Il y a un nom aussi qu'on entend un peu moins souvent, Eunice Foote, dans son article « Circonstances affectant la chaleur des rayons du soleil » publié en 1856. Je vous vois hocher de la tête, est-ce que vous pouvez parler rapidement de ce travail?
Non, je ne peux guère en parler parce qu'effectivement c'est une chercheuse ou une scientifique qui a été mise en avant relativement récemment, et je dois reconnaître que les travaux que j'ai faits remontent à quelques années et qu'à l'époque je n'avais pas connaissance de cette scientifique qui a joué effectivement un rôle important.
Je connais seulement une de ses expériences où justement elle montre que le dioxyde de carbone placé dans un cylindre en verre au soleil devient plus chaud et surtout il met plus de temps à refroidir que les autres gaz quand on le met à l'ombre. Donc elle participe aussi à ce savoir en fait sur le CO2 et le fait que ce CO2 retient en quelque sorte cette chaleur. Et puis il y a un troisième nom important dans la découverte de ce processus qui est le suédois Svante Arrhenius. C'est ça.
Oui, alors Arrhenius, effectivement, c'est le nom qu'on entend le plus souvent s'agissant cette fois de l'effet de serre d'origine humaine. Et c'est ça le grand changement. Donc, en 1896, hein, au tournant du 19e et du 20e siècle, Arrhenius publie un article sur le CO2 et ses effets de réchauffement. Et il affirme que si le taux de CO2 est multiplié par 2, donc si on double le taux de CO2 dans l'atmosphère, eh bien la température globale augmentera de 4 à 5 degrés. Alors cette mesure de à quelle hausse de température correspond à un doublement de CO2, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sensibilité du climat. C'est une mesure extrêmement importante pour caractériser l'importance donc du changement climatique. Et Arrhenius ajoute que grâce aux émissions de dioxyde de carbone émises notamment par la combustion du charbon, eh bien peut-être que les hommes seront capables de retarder la prochaine glaciation, ce qui pour lui est quelque chose de très positif. Et il dit aussi que peut-être que les climats du Nord seront plus propices au blé et permettront de meilleures récoltes.
Donc on ne voit pas d'un mauvais œil, en fait, finalement.
Absolument pas. Il ne voit plutôt ça d'un bon œil. Alors, cela dit, les travaux d'Arrhenius ont été... Arrhenius était très célèbre. Hein, il a été prix Nobel en 1903 pour d'autres travaux. Et par contre, ces travaux-là sur le changement climatique éventuelles d'origine humaine ont été contestées parce qu'en fait...
À ce moment-là, dès sa parution ?
Oui, enfin peu après, pour des raisons scientifiques, c'est-à-dire qu'il y avait des objections. D'une part, deux types d'objections en fait. D'une part, on pensait que ce CO2 supplémentaire serait absorbé par les océans, puisque les océans absorbent effectivement...
Sont un puits de carbone.
Voilà. Et la deuxième objection, c'était que, c'est un petit peu plus technique, c'était que la gamme de longueur d'onde dans laquelle agit le CO2 recouvre plus ou moins, pensait-on, celle de la gamme de longueur d'onde de l'eau, de la vapeur d'eau, si bien que rajouter du CO2 n'aurait en fait aucun effet. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'eau, la vapeur d'eau telle qu'elle existe, réchauffe déjà et que le surcroît de CO2 ne provoquerait pas un réchauffement supplémentaire. Donc ça, ce sont deux objections qui ont tenu pendant un certain temps. Et ce n'est que dans les années 50, en fait, que ces objections ont été levées par des travaux de scientifiques tout à fait liés à la guerre froide. C'est-à-dire que ces années 50 voient un développement considérable des géosciences. Alors peut-être que Fabien...
On va y venir dans un second temps. Et peut-être une petite dernière question sur les travaux de Dante Arrhenius. S'il prédit ainsi un réchauffement, c'est que c'est un petit peu la première prédiction, modélisation qui existe dans les sciences climatiques. Comment est-ce qu'il fait cette prédiction ?
Ah non, absolument pas de modélisation dans le cas de Dante Arrhenius. La modélisation numérique, elle n'apparaît qu'à partir des années 60.
Et là, il fait une simulation ? Comment est-ce qu'on appelle
justement cette prédiction ? Non, absolument pas. C'est théorique. C'est tout simplement le fait que on sait que le CO2 provoque un réchauffement. Les hommes ajoutant du CO2, il fait un calcul qui est un calcul à base d'équations théoriques très simples, mais sans modélisation du tout. Il faut savoir que jusqu'aux années 50-60, il n'y a pas de modélisation, mais que les théories physiques et les connaissances qu'on avait à l'époque suffisent déjà pour affirmer un certain nombre de choses avant les modèles.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Nous arrivons dans la dernière partie de notre émission, dans la période la plus contemporaine du changement climatique d'origine humaine. Pendant le 19e siècle, les notions scientifiques s'affinent sur le cycle de l'eau, les mouvements atmosphériques, la formation des glaciers, la naissance de la paléoclimatologie, l'étude donc des climats passés. Fabien Locher, est-ce que les sciences climatiques et le changement climatique sont nécessairement liés dans l'évolution du savoir ? Est-ce que le développement justement de cette climatologie suit forcément ce phénomène ou s'en détache totalement ? Entre les deux.
La climatologie, elle se structure à la fin du 19e siècle, d'abord comme une science très descriptive, qui est très proche de la géographie, en fait. Une science qui, d'ailleurs, va mettre de côté la question du changement climatique pour un temps, parce qu'on a beaucoup discuté au 19e siècle du changement climatique causé par la déforestation, sans arriver à le quantifier, en fait. Et donc, ça va devenir un sujet, pas tabou, mais un sujet un peu négligé. Et c'est vraiment, d'abord avec les signaux faibles, que Hélène mentionnait, avec Arrhenius, que cette problématique revient sur le devant de la scène, mais surtout après 1945, et Hélène l'a dit, il y a un changement majeur dans la compréhension de l'environnement et dans les sciences. C'est que la guerre froide fait de la planète Terre un champ de bataille. Donc pour envoyer un missile Polaris depuis un sous-marin nucléaire qui est en plongée dans l'Atlantique et que ce missile arrive sur Leningrad ou Moscou, il faut connaître bien sûr la technologie des missiles, mais il faut aussi connaître les fonds marins, les courants, la salinité, la géographie du fond des mers, les hautes couches de l'atmosphère, les températures, la glaciologie, parce que peut-être que ce missile va passer par les régions polaires.
Donc les sciences sont boostées par
le géomagnétisme, parce qu'il faut orienter le missile. Donc en fait, la Terre étant un champ de bataille, la Terre devient l'objet d'un immense investissement des États. États-Unis d'abord et URSS, mais aussi Grande-Bretagne et dans une certaine mesure France. Et ça va tout changer parce qu'on va avoir des masses énormes de données qui vont être produites. On va avoir des satellites qui sont d'abord à visée militaire, mais qui sont ensuite civils, qui vont produire des données climatiques. On va avoir aussi le développement, mais ça, Hélène en parlera bien mieux que moi, des ordinateurs qui, je le rappelle, le premier ordinateur, ENIAC, est un pur produit de l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ce sont bien les armées qui vont investir massivement dans la technologie informatique. C'est d'ailleurs assez cocasse de voir aujourd'hui la Silicon Valley décrite comme le temple du libéralisme économique, puisque la Silicon Valley doit sa naissance à des décennies d'investissement étatique en pure perte, mais qui sont liés à l'effort de guerre. Ça, c'est une simple digression, mais tout ça pour dire que ce qui change tout, c'est vraiment ce contexte international et cet investissement massif des savants dans cet effort.
Et pour comprendre les paramètres qui influencent et simulent le devenir du climat, il est nécessaire maintenant d'aborder les modèles climatiques. Quand et comment naissent ces modèles climatiques? Vous avez commencé à l'évoquer. Donc tout démarre, Hélène Guillemot, dans les années 50 avec les ordinateurs et les premiers ordinateurs qui permettent de faire ces simulations. Comment se déroule un petit peu l'évolution de ces savoirs?
Alors, les modèles climatiques, c'est la seconde utilisation des ordinateurs qui sont apparus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, la première étant la mise au point de la bombe H. Et en fait...
On en revient au conflit armé.
Absolument. Genre. Donc, comme le disait Fabien, évidemment, le développement des ordinateurs est extrêmement lié à la guerre et à la guerre froide. Et en réalité, ce n'est pas du tout étonnant que la météorologie soit une application tout de suite après la bombe, parce qu'en fait, la bombe H et le climat ont quelque chose en commun, c'est qu'ils mettent en œuvre les équations de la dynamique des fluides, dans les deux cas. Or, ces équations de la dynamique des fluides sont bien connues, mais elles ne peuvent pas être résolues analytiquement, et on peut par contre les résoudre grâce... de manière approchée grâce aux ordinateurs. Et John von Neumann, qui est un peu l'instigateur de des premiers ordinateurs et de leur utilisation pour la bombe H, est aussi l'initiateur de la modélisation du climat. Ou plus exactement, au début, c'est la modélisation du temps, en fait, parce que les premiers modèles sont utilisés pour prédire le temps qu'il va faire. Ce sont les modèles météo qui sont étudiée et mise en place à Princeton, aux États-Unis, sous l'égide de von Neumann, qui installe un laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que absolument parallèlement à ces modèles météorologiques qui ont donc objectif de prédire le temps qu'il va faire, en l'occurrence aux États-Unis seulement, eh bien, on étudie aussi ce qui va devenir des modèles de climat. C'est-à-dire qu'il y a très peu, en fait, de différence entre les deux à ce stade, puisque dans les deux cas, on utilise les mêmes équations et il s'agit de décrire l'écoulement de l'atmosphère, la circulation de l'atmosphère. Alors, dans le cas de la météo, il s'agit d'utiliser les données atmosphériques à un instant T pour prédire ce qu'elles seront plus tard, le jour d'après. Dans le cas du climat, eh bien, on étudie cet écoulement de l'atmosphère pour avoir une idée du climat de manière statistique. On sait que le climat, c'est la statistique de la météorologie. Et donc, ce sont en fait les mêmes savants, les mêmes scientifiques, au même endroit, à Princeton, qui mettent au point, pas tout à fait les mêmes, mais la même équipe, qui mettent au point les modèles météorologiques, les premiers modèles. Le premier modèle de prévision va être opérationnel en 1955. Vous voyez que ça va assez vite. Et les ancêtres des modèles de climat, aussi à la fin des années 50.
Et l'enjeu, là, c'est de pouvoir reconstituer le climat dans une simulation numérique, ou c'est aussi un enjeu de prévoir notamment ce qui pourra advenir, pas forcément dans la saison d'après ou au lendemain, mais même d'un point de vue plus lointain.
Alors, John von Neumann, quand il a vu le succès des premiers modèles, que je dirais ancêtres des modèles de climat, a parlé d'une prévision à long terme, effectivement, à l'époque sans du tout avoir l'idée de sa part d'un changement climatique. Mais pour les chercheurs de l'époque, les premiers travaux, en fait, ont une visée vraiment scientifique de comprendre comment fonctionne l'atmosphère, comment elle se déplace, quel est le rôle des rayonnements, etc., quels sont les échanges entre rayonnement et surface. Bon, il y a un certain nombre de choses qui étaient plutôt à visée scientifique, mais qui sont toujours liées avec le développement des modèles météorologiques.
Et il y a un enjeu aussi de la question de l'incertitude et de l'imperfection en fait des modèles climatiques qui revient. Comment a évolué un petit peu cette imprécision, incertitude dans le temps, et est-ce qu'elle est caractéristique finalement du fait de faire une simulation ou un modèle? Hélène Guillemot.
L'incertitude, c'est quelque chose qu'on mesure et dont on parle surtout depuis les rapports du GIEC qui mentionnent et qui calculent, qui définissent assez précisément cette incertitude. Pour les premiers modèles de climat, les choses ne se posaient pas dans ces termes-là parce qu'ils étaient tellement approximatifs, tellement grossiers et tellement généraux que c'était pas vraiment la question de l'incertitude qui se posait. Mais ces modèles ont donc évolué, ils se sont énormément perfectionnés, notamment avec le développement des ordinateurs qui a été absolument fulgurant, aussi avec le développement des sciences du climat, et évidemment avec le développement surtout de tout un réseau d'observations terrestres, mais aussi dans les océans, voilà, de mesures, et également par satellite, et également, on en parle moins, des campagnes d'observation qui ont lieu plus ponctuellement dans des lieux précis pour étudier des phénomènes précis et qui rassemblent toutes sortes d'instruments, d'avions, de ballons, de satellites. Et toutes ces mesures, toutes ces observations vont permettre de, sinon valider, du moins vérifier la fiabilité des modèles. C'est assez compliqué d'ailleurs, ces comparaisons entre simulation des modèles et observation, mais c'est évidemment totalement nécessaire. C'est-à-dire qu'un modèle n'est considéré comme fiable que s'il a été partiellement validé par les observations.
Et est-ce qu'il y a une date charnière, une conférence, une publication qui marque vraiment le moment où le changement climatique est reconnu mondialement, d'origine anthropique bien sûr, Hélène Guimot?
Alors bon, on peut peut-être revenir aux années 50 où effectivement les deux objections aux thèses d'Arrhenius ont été levées grâce à des mesures qui ont montré qu'en fait le CO2 s'accumule, le CO2 d'origine humaine s'accumule bien dans l'atmosphère et qu'il est susceptible de provoquer un réchauffement. Bon, à cette époque-là, on ne peut pas encore parler d'alerte en réalité parce que ce réchauffement est considéré comme lointain et surtout, il y a de tels manques de connaissances concernant l'atmosphère et le climat. Par exemple, on prend très mal en compte le rôle des océans que les scientifiques de l'époque ne mettent pas tellement en avant ce risque. C'est à partir des années 70, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où les préoccupations environnementales grandissent, que la préoccupation du changement climatique commence à voir le jour. Même si à cette époque, alors un certain nombre de rapports sont publiés surtout aux États-Unis, qui mentionnent le CO2, les effets du CO2. Ces rapports mentionnent surtout d'autres risques que le climat, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant à cette époque, c'est plutôt la désertification, les pluies acides, etc. Le rôle du changement climatique d'origine humaine est assez faible dans ces rapports, mais il grandit au fur et à mesure du temps, dans les années 70. Alors, il faut savoir aussi que dans les années 70, il y a un autre risque lié aux activités humaines, c'est le refroidissement dû aux aérosols, c'est-à-dire dû à la pollution. Les poussières de pollution réfléchissent les rayons du soleil et donc provoquent un refroidissement, c'est-à-dire un effet inverse de celui du CO2. Alors, à un moment dans les années 70, on ne savait pas, on se préoccupait déjà du rôle de l'homme dans le climat, mais la question s'est posée de savoir qui l'emporterait entre le refroidissement dû à la pollution et le réchauffement dû aux émissions de CO2. Et à la fin des années 70, il est devenu assez clair que le réchauffement l'emportait. Alors, si on veut une date, eh bien...
J'avais 79, première conférence mondiale sur le climat, c'est ça ?
Absolument, c'est d'accord. La date que souvent les climatologues et parfois les historiens mettent en avant. Alors, c'est une date parmi d'autres, mais...
Parce qu'il y a plusieurs rapports aussi qui sont publiés cette année-là.
Voilà, alors il y a
rapport Charnay.
Voilà, exactement. Donc, il y a cette grande conférence mondiale sur le climat. Il y a la création aussi du programme mondial sur le climat, qui est un programme scientifique de l'ONU, qui est important parce qu'il va orchestrer les recherches sur le climat au niveau international. Donc, c'est le WCRP. Et puis, il y a le rapport Charnay. Alors, ce rapport Charnay a été commandé par l'Académie des sciences, a été commandé par
la Maison Blanche,
et produit par Charnay et d'autres collègues. Charnay est un très grand scientifique du climat. C'est lui qui a mis au point le premier modèle météorologique des États-Unis. Et Charnay, Charnay et ses collègues, pour la première fois, affirment, même s'ils évoquent pour le coup des incertitudes et des doutes, mais ils affirment qu'il y a une menace, qu'il y a un risque de réchauffement climatique qu'il évalue à environ 3 degrés pour un doublement du taux de CO2, et ils s'appuient pour ça sur 3 ou 4 modèles, parce qu'à l'époque il n'y avait que 3 ou 4 modèles, et sur des théories, tout en mentionnant certes qu'il y a des incertitudes, mais que néanmoins ce risque est probable.
Nous arrivons à la toute fin d'émission et le GIEC est créé. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est créé en 1988. Les rapports se succèdent de probabilité en probabilité. On comprend que l'humain est responsable du changement climatique. D'abord, on passe d'un faisceau d'éléments à un probable rôle des activités anthropiques, à très probablement en 2007, puis sans équivoque en 2021. Donc avec le GIEC, la responsabilité humaine se précise et d'un autre côté, c'est l'incertitude qui demeure quant à notre avenir. Amaïna Guéniaud, nous finirons avec vous. Il y a dans le bouleversement que l'on vit quelque chose d'inédit, d'imprévisible. Comment la philosophie peut nous aider à saisir et à dépasser peut-être ce qu'on est en train de vivre ?
Alors, je vais remonter un petit peu en arrière aussi, parce que je m'intéresse notamment à une philosophe qui est Hannah Arendt et qui se préoccupe justement dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide de cette question. Elle insiste dans La conquête de l'homme moderne et la dimension de l'homme sur un grand sujet, c'est à savoir que toutes les transformations techniques qu'on peut envisager de la planète et également les explorations techniques qu'on peut faire d'autres de planètes sont évidemment corrélées à l'exploitation de la Terre. Autrement dit, il y a une sorte d'illusion fondamentale à laquelle, qui est permanente dans nos sociétés, qui est qu'on pourrait produire la Terre comme si elle était notre œuvre, notre artefact.
Et l'améliorer finalement, c'est ce que vous disiez, Fabien Rocher.
Voilà, en faire, et on en voit en plusieurs exemples. À une petite échelle, ça peut être l'idée de remplacer des abeilles par des drones. À une plus grande échelle, ça peut être l'idée de remplacer les régulations naturelles du climat par des régulations artificielles avec des miroirs ou l'émission de soufre.
La géo-ingénierie finalement, voilà, qui est soulevée. Exactement. Aussi par un autre rapport de la Maison Blanche qui parle justement de la manière dont on pourrait, avec l'ingénierie, solutionner finalement, techno-solutionner ce problème.
Oui, et ce que nous dit, ce que nous rappelle Hannah Arendt très justement, c'est qu'en fait il y a une sorte d'illusion fondamentale qui est de croire que la Terre peut être notre projet et n'est pas le seul, alors qu'elle est en fait le seul de tous les projets qu'on pourrait faire, y compris des projets scientifiques et des projets techniques qui sont les nôtres. Et donc, dans la condition de l'homme moderne, donc en 58, elle revient aussi sur le fait que si on veut pouvoir continuer à faire des recherches scientifiques et des recherches techniques, il va falloir entretenir la planète, ce qui suppose de revenir là encore aux anciens, à Aristote, pour voir deux choses. D'une part, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'artefact, des artefacts humains et des êtres naturels. On retrouve déjà cette théorie chez Aristote. Il y a une sorte d'hubris à vouloir faire des êtres naturels nos artefacts. Et deuxième élément qu'elle rajoute par rapport aux anciens, c'est qu'il va falloir pouvoir faire attention à une troisième activité occultée par Aristote, qui est le labeur. Le labeur humain, qui est le travail d'entretien et de soins de la planète et de nos milieux. Si on ne fait pas ce travail-là, en fait, tous les autres projets de production de poiesis vont devenir complètement impossibles.
Merci à vous trois, Hélène Guillemot, Amaïna Guéniaud et Fabien Locher, d'être venus nous parler de la découverte du changement climatique et comment elle a changé le monde.
L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas, car les sont les fautifs cette fois. Comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit? Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non.
Sophie Catherine Gallet à la préparation de cette émission, Sam Bakiast à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Ruben Carmazine à la technique. On se quitte en musique avec L'écologie sauvons la planète d'Assassin. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.
L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire.